un podcast France Culture.
Avec science, et c'est avec vous Alexandra Delbeau, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, chez les fourmis, les reines ne sont pas bonnes qu'à la reproduction.
Et c'est l'une des deux castes possibles pour une femelle, être ouvrière, c'est le plus probable, ou devenir reine. À l'origine de cette orientation des larves, il y a tout un tas de facteurs. On sait que les futures princesses ne sont pas nourries de la même manière que les futures ouvrières. Des gènes s'allument quand d'autres non, les ovaires se développent, les reines deviennent fertiles, quand les autres restent stériles. Et les fonctions associées à chacune de ces deux castes sont distinctes. Les reines sont à la reproduction et les ouvrières au reste. Elles vont défendre la colonie, s'occuper du couvain ou encore creuser
le couvain,
les tunnels.
Le couvain,
c'est justement les nouveaux, les petits à naître.
Ah, d'accord.
Une division du travail très nette, comme chez tout un tas d'insectes sociaux. La question qui se pose, c'est de quoi dépend cette spécialisation des reines. Romain Librec est chercheur CNRS à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à Tours et auteur principal de cette étude parue dans Functional Ecology.
Il est globalement accepté dans la communauté scientifique, mais également dans le grand public, que ces reines sont en quelque sorte des machines à produire des œufs, que leur spécialisation dans la ponte est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante des éléments extérieurs. Et donc, cette spécialisation des reines dans la ponte a été beaucoup étudiée, mais toujours les aspects reproducteurs. Il y a eu très peu d'études sur les comportements non reproducteurs des reines, et c'est notamment parce que les reines ne les expriment pas habituellement dans les colonies établies, les colonies matures. Pourtant, les reines vont exprimer ces comportements non reproducteurs lors de la fondation des colonies. C'est le seul moment dans le cycle de vie d'une reine, chez la plupart des espèces de fourmis, où cette reine va devoir exprimer des comportements non reproducteurs qui sont habituellement exprimés par les ouvrières. Et la raison est simple, c'est simplement qu'à ce stade, la reine est seule. Il n'y a pas d'ouvrière avec elle.
Et oui, c'est elle qui va pondre ses ouvrières. Et c'est donc un moment charnière. Pendant la fondation de la colonie, la reine effectue d'autres tâches que la ponte. Puis, elle va se mettre à pondre. On dit qu'elle se spécialise. Mais qu'est-ce qui régule cette spécialisation? Qu'est-ce qui déclenche ce comportement? Est-ce un facteur interne à la reine ou externe à elle, comme la présence de ses congénères ouvrières? C'est ce qu'a voulu tester cette nouvelle étude. Pour cela, ces scientifiques ont filmé des reines tout juste matures sur le point de fonder leur colonie, en présence d'un couvain qui a besoin qu'on s'occupe de lui.
Et le but, c'est de regarder ce qui se passe quand on ajoute des ouvrières.
Exactement, pour voir qui fait quoi. Mais il y a une petite subtilité méthodologique pour bien contrôler tous les paramètres. On ne peut pas attendre que des ouvrières naissent. Alors, il fallait en prendre d'autres colonies, mais très jeunes elles aussi. Des ouvrières qui n'ont vu le jour que depuis 10 heures pour qu'elles ne portent pas sur elles l'odeur d'intruse. Résultat, quand les ouvrières ne sont pas là, eh bien, la reine fait des tâches d'ouvrière et c'est leur présence qui induit la spécialisation.
Donc le fait d'avoir démontré que la présence d'ouvrières induit la spécialisation des reines dans la fondation des colonies nous a fait poser la question de savoir si dans les colonies établies, la présence d'ouvrières maintient la spécialisation des reines. S'il faut qu'il y ait toujours des ouvrières présentes pour que la reine ne s'occupe pas du couvain et se focalise strictement dans la production d'œufs. Et donc là, on a utilisé des colonies matures qu'on avait en laboratoire où les reines étaient spécialisées depuis plusieurs années. Et on les a isolées de leurs ouvrières et on s'est rendu compte que ces reines isolées se remettaient à s'occuper du couvain, tout comme les reines fondatrices. Donc leur spécialisation est seulement apparente, elle est seulement due à la présence des ouvrières. Et comme ces résultats démontrent que la spécialisation des reines fourmis n'est donc pas intrinsèque, c'est quelque chose qui dépend des conditions dans lesquelles elles se trouvent, ça c'est en désaccord avec cette vue communément acceptée des reines fourmis comme étant des machines à produire des œufs et que cette spécialisation ne dépend pas des conditions externes.
La spécialisation est donc déclenchée et maintenue par l'environnement social. La prochaine étape sera de mieux caractériser cet effet. Mais les auteurs ont déjà une hypothèse. Imaginez une colocation. Chacun des membres a un seuil de tolérance différent à la vaisselle qui s'amoncelle dans les
chez moi.
En clair,
c'est
voilà, exactement.
Moi.
En clair, ce sont toujours les mêmes qui font le sale boulot.
Ah, et qui mettent... Ben oui, quand vous vivez avec des adolescents qui ont un trouble qui les empêche de trouver la, la machine à laver, par exemple.
Exactement, exactement. Mais si ces derniers, ceux qui font le sale boulot, partent en voyage, eh bien, la vaisselle va s'accumuler et s'accumuler, et il faudra bien s'y mettre un jour, au risque d'accepter de manger directement dans la boîte de conserve avec les mains.
Un adolescent
peut faire ça. Dans notre cas, les reines fourmis n'aiment pas faire la vaisselle, alors que les ouvrières ont un seuil de tolérance très bas à l'accumulation de déchets. Elles vont donc faire la vaisselle à la place de la reine, comprenez, s'occuper du couvain. Reste maintenant à le prouver expérimentalement et à regarder si ce comportement est partagé chez d'autres insectes sociaux.
Merci Alexandra Delbault.